Et maintenant, place au théâtre.
Notre histoire commence par une étrange affaire. Nous sommes à Paris en 1820, sous le règne de Louis XVIII, soit 150 ans après la mort de Molière. Au premier jour du printemps, sous les arcades du Palais Royal, une rumeur se mit à enfler. Un paysan vagabond s'était soi-disant présenté fin mars à la Bibliothèque nationale.
Un paysan conduisant une charrette traînée par un âne s'était arrêté devant la porte de la bibliothèque et avait demandé le directeur de l'établissement.
Fais excuse, monsieur le concierge, mais comme ça, je voudrais bien voir un de ces messieurs qui habite ici.
En ce temps-là, le public n'était admis que deux fois par semaine dans le grand dépôt de la rue de Richelieu. Or, ce jour-là, précisément, la salle de lecture était close. Le concierge répondit donc qu'on n'entrait pas. Les employés étaient absents et aucun des conservateurs ne se trouvait à son bureau. Ce qu'entendant, le paysan parut fort embarrassé. « C'est que, dit-il, je viens de loin. J'apportais à ces messieurs quelque chose d'intéressant pour eux, m'attendez. Tous les papiers de Monsieur Molière, ajouta-t-il, en désignant deux ou trois sacs bourrés dont était chargée la charrette.
Les papiers de Monsieur Molière, ouais. C'est pas le jour de se moquer des honnêtes gens, hein.
Le concierge répliqua qu'il n'y pouvait rien, qu'il fallait revenir, et ferma la porte au nez du villageois déconfit. Pourtant, quand le lendemain les conservateurs parurent, il fit son rapport. Un homme en blouse, une charrette pleine de sacs, les papiers de M. Molière, grand témoin. D'où pouvait être ce paysan? Reviendrait-il? Le reverrait-on? On ne le revit jamais.
Jamais on ne le revit. L'anecdote est fausse, mais cette rumeur a bel et bien couru dans les rues de Paris à l'aube des années 1820. Alors, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Eh bien que Molière nourrit ses propres légendes. Privé de ses archives personnelles, qui ont très tôt disparu, des générations de biographes n'ont cessé depuis trois siècles de véhiculer des fables qui faussent encore aujourd'hui son portrait. Molière nous échappe. Mais Jean-Baptiste Poquelin fut sans doute à l'image de son siècle, éloquent et ambigu. Asservi mais frondeur, attaché au pouvoir mais l'esprit libre, Molière fit à la fois figure de chien et de loup. Voici en 10 épisodes le destin extraordinaire du plus grand auteur comique occidental.
Alors qu'est-ce qu'on fait?
Nous allons parler du théâtre.
Au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit.
Commence.
Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Molière, le chien et le loup.
Molière, vous avez su infiniment nous plaire.
Premier épisode, l'illustre méconnu. Comme vous, j'ai découvert Molière à l'école. Comme vous, j'ai vu plusieurs de ses pièces jouées au théâtre.
Il est si doux de vivre, on ne meurt qu'une fois et c'est pour si longtemps.
Je m'en vais t'assommer de coups si je t'entends.
Et comme vous, j'ai longtemps cru qu'il était mort sur scène.
On me laissait mourir ici tout seul.
Le paradoxe de Molière, c'est que c'est peut-être le personnage le plus connu des Français, en tout cas dans le domaine artistique c'est certain, et qu'en même temps, il reste extrêmement peu de traces de lui. Au point d'en faire une obsession dans les archives audiovisuelles du XXe siècle. Sans cesse, ça revient.
Ne trouvez-vous pas incroyable qu'à une époque où les gens écrivaient tant de lettres, les recopiaient, gardaient celles qu'ils recevaient, ne trouvez-vous pas incroyable que malgré les recherches effectuées depuis des siècles, on n'ait rien trouvé?
Ah, évidemment, je ne l'explique pas, et les érudits, les chercheurs ne l'expliquent pas plus que moi.
Vous avouez donc qu'il y a un mystère Molière.
Oh, mais nous devons bien l'admettre, il y a un mystère Molière.
Ce mystère Molière alimente toutes sortes de fantasmes. Des fantasmes ou des inepties qui induisent que depuis sa mort en 1673, on raconte régulièrement n'importe quoi. Alors, pour amorcer cette série consacrée à ce génie français, il faut d'abord dissiper les ombres et s'approcher au plus près des faits. Molière, l'illustre méconnu.
Une farce du sieur Molière.
Avant tout, il est peut-être utile de repréciser brièvement le cadre.
Laissez passer le carrosse du roi !
Le XVIIe siècle, celui de Molière, débute sous le règne d'Henri IV, assassiné à Paris par Ravaillac en 1610.
Je suis blessé.
Son fils, alors âgé de 9 ans, devient roi de France sous le nom de Louis XIII, sacré à Reims par le cardinal François de Joyeuse.
Le roi est mort. Vive le roi !
Avant qu'à son tour, Louis le XIVe ne s'arroge le titre de roi soleil.
Vive le roi !
Ce grand siècle fut aussi celui des mémorialistes, comme le cardinal de Retz ou l'abbé de Choisy. Ce fut également le siècle des diaristes aiguisés, comme André d'Ormesson. Et ce fut aussi le temps des grandes épistolières.
Je me sauve.
Comme Madame de Sévigné.
Monseigneur l'archevêque de Reims a promis de me faire place dans son carrosse et je ne voudrais pas manquer l'occasion de quelques nouvelles à écrire à ma fille.
Tout cela était le plus émouvant du monde, mais croyez-moi, cela ne vaut pas Corneille. Et si vous voulez mon sentiment, Racine passera comme le café. Oh mon Dieu, je crois bien que c'est Monsieur de Molière que nous avons bousculé dans la porte. Voilà bien encore de quoi écrire à Grignan.
Madame de Sévigné et son XVIIe siècle ont donc fourni beaucoup de manuscrits précieux conservés dans les archives. Alors comment expliquer qu'aucun des papiers personnels de Molière ne soit arrivé jusqu'à nous ?
Il y a deux raisons principales. La première raison, c'est que tout ce qui concerne les siècles avant le 18e...
Georges Forestier est historien et biographe de Molière.
On n'a pas conservé de papiers sur la plupart des auteurs. On jetait au feu tout ce qui était écrit et publié. Les seules choses qu'on a conservées, des mémoires, etc., c'est ce qui était non publié et qu'on a publié plus tard. Donc tout a disparu. Molière avait non pas deux enfants adorateurs comme Racine qui ont essayé de tout sauver de ses papiers et qui ont sauvé seulement 200 lettres sur les 40 000 qu'il a écrites. Molière, lui, il a une fille élevée dans le giron de l'église qui n'a rien voulu savoir de la vie de ses parents comédiens. Et donc tout a disparu après la mort de Molière, de cette fille qui avait peut-être les papiers, mais ils ont disparu. Voilà, ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que on a assez tôt voulu mettre un peu d'intime dans ce qu'on ignorait. Il y avait une manière de faire des biographies, qu'on appelait des vies. Et dans les vies, c'était l'héritage tout simple d'un secteur de la rhétorique de l'éloge. Et bien, dans cette rhétorique de l'éloge, en fait, quand on faisait l'éloge d'un grand homme, on ne retenait que des éléments saillants et on inventait le reste. L'idée de chercher des documents, ça n'existe pas. Ça commence à exister à partir de la fin du 18e et surtout du 19e siècle. Pour Molière, la première enquête sérieuse, c'est un commissaire de police à la retraite, Beffara, qui a le premier dit « Mais quand même, je vais aller chercher l'acte de naissance de Molière, l'acte de mariage de Molière. » Et du coup, voilà, il a commencé à redresser des erreurs qui étaient faites par les inventions de tous les biographes antérieurs.
C'est quelle époque ?
Début du 19e.
Ah oui, c'est très tard.
Oui, très tard.
Beffara, qui était un commissaire de police de la chaussée d'Antin.
Un commissaire de police, tiens, par exemple.
Eh bien, forcément, par sa profession de commissaire de police, il avait le sens de l'enquête. Il attachait une importance toute particulière aux pièces à conviction. Et Beffara eut l'idée, que personne n'avait eue avant lui, d'explorer les registres de l'état civil. Et alors, il a délaissé les racontars, les rêveries, les hypothèses, les colportages dont on s'était grisé jusqu'à lui, c'est devenu quelque chose de sérieux.
Oui, c'est à la suite de Beffara que commence la grande chasse. Il est, lui, le premier policier dans cette poursuite. Poursuite d'ailleurs qui comporte parfois des histoires extravagantes, comme les fous et les mystificateurs ont du beau jeu.
La radiodiffusion française vient de vous présenter Prestige du théâtre. Une émission de la Société d'histoire du théâtre avec Louis Jouvet, le comédien, Pierre Bertin, l'amateur, Léon Chancerel, le secrétaire, Dominique Blanchard, la jeune comédienne.
Malgré l'enquête sérieuse du commissaire Beffara au XIXe siècle, Molière demeure en proie aux affabulations. Car dès le départ, les sources ont été biaisés.
Oui, Molière est tout à fait insaisissable. Il y a aujourd'hui encore des zones d'ombre, en dépit des biographies de plus en plus fines et de la biographie de référence maintenant dont on dispose aujourd'hui, mais qui justement a l'humilité de reconnaître qu'il y a des choses qu'on ne saura jamais.
Martial Poirson est historien.
Ce qui est le cas en fait de la plupart des grands hommes et qui ne choque pas quand on n'a pas justement un phénomène d'amplification médiatique tel que celui de Molière. Donc Molière est d'une certaine façon victime de son succès. On veut tout savoir de lui. On veut absolument porter la lumière sur toutes les dimensions les plus privées de sa vie, alors même que l'archive manque et manquera toujours. Pour preuve, on a quand même mis plus de 2 siècles à retrouver ne serait-ce que l'extrait d'acte de baptême qui atteste de la date approximative de sa naissance, celle qu'on célèbre le 15 janvier, et qui pendant 2 siècles était absolument inconnue. Donc même sa naissance a été objet de mystère, et sa mort reste aujourd'hui l'objet de toutes sortes de fantasmes.
Certaines sages-femmes qui avaient appris son art à l'hôtel de Notre-Dame de la Pitié, à Paris, sous la direction de la célèbre Louise Bourgeois, aida, le 13 janvier 1622, la charmante dame Poquelin, née Crécé, à mettre prématurément au monde un premier enfant de sexe masculin.
Alors, le jour exact de la naissance, on l'ignore. Mais on sait qu'il a été baptisé le 15 janvier 1622, et en général, on était baptisé souvent le jour même, rarement le lendemain, alors sauf quand on était prince ou roi, alors là on pouvait attendre l'âge de 5 ans avant d'être baptisé. Et donc il est né probablement le 14 ou le 15 janvier. Disons le 15 janvier, c'est plus commode, il a été baptisé.
Le 15 janvier 1622, le nouveau-né fut baptisé en l'église Saint-Eustache. Il reçut pour prénom Jean-Baptiste.
Il est né au coin de la rue des Petites Étuves, aujourd'hui la rue Sauval, et de la rue Saint-Honoré.
Donc au cœur de Paris, ce qui correspond aujourd'hui à l'église Saint-Eustache, c'est le quartier idéal en
vérité. Oui, c'est ça, c'est le quartier idéal.
Quartier idéal. Dans quel monde naît ce jeune Français? Dans quel monde et qui sont ses parents?
Alors, il naît dans un monde très privilégié puisqu'il est fils, petit-fils, neveu, enfin petit-fils des deux côtés, de marchand tapissier.
Va aider en boutique Jean-Baptiste, tu fatigues ta mère.
Et marchand tapissier au XVIe, XVIIe siècle, c'est le haut du pavé des marchands, des commerçants et des artisans. Parce que ce sont eux qui sont l'équivalent de nos décorateurs d'aujourd'hui, qui vendent à qui? Eh bien, à l'aristocratie et à la bourgeoisie, c'est-à-dire à ceux qui ont les moyens de s'acheter des lits en plumes, des fauteuils rembourrés, des coussins, qui ont le moyen de mettre des tapisseries pour se protéger du froid le long de leurs murs, etc., etc. C'est-à-dire la boutique du père de Molière, qui était donc au bas de la maison où il est né, au coin de la rue Saint-Honoré et de la rue Sauval, eh bien, cette boutique était fréquentée par l'aristocratie et la haute bourgeoisie. Donc, il naît dans ce milieu-là. Et en plus, son père a acheté une charge d'officier de la maison du roi. Et lui, il était tapissier, valet de chambre.
Encore un beau fauteuil pour Sa Majesté, Monsieur Poquelin.
Eh oui, Monsieur Champouille, oui. Nous ne sommes pas sur cette terre pour nous reposer. Allez, en route!
Et comme ce sont justement les tapissiers qui ont la responsabilité de la chambre du roi, eh bien c'est une responsabilité donc très importante. Ils participent chaque matin à refaire le lit du roi. Pour Molière, ce sera formidable quand il sera, à partir de 1660, régulièrement là, parce que un trimestre par an, il met sa livrée, il entre par derrière, et il fait partie des petites entrées privilégiées qui ont accès au lever du roi. Et évidemment, lorsque le roi a lui dire quelque chose, il le lui dit directement.
Oui, puisque Molière va récupérer la charge de son père, le tapissier,
voilà.
Valet de chambre du roi.
Jean, dit Jean-Baptiste, fils de Jean Poquelin, marchand tapissier. Sais-tu que tu devras bien et fidèlement exercer le métier de tapissier? Ne pas œuvrer aux 10 métiers de nuit, car la lumière de la nuit n'est pas suffisante à œuvrer bien ce métier. Ne pas enseigner ce métier à une femme, car il est trop grave pour une femme. Ne pas œuvrer avec du fil qui ne soit pas du fil de laine bon et loyal. Ne pas faire œuvre médiocre ou fausse qui puisse être blâmée. Célébrer la fête de Sainte-Geneviève en pareille cérémonie que celle de Saint-Louis ou Saint-François. Ne pas jurer ou blasphémer le saint nom de Dieu. Ne rien faire dérogeant à ta condition. Connais-tu cela?
Je connais cela.
t'y engages, tu.
Je m'y engage.
Donc milieu assez bourgeois, milieu assez riche, milieu assez proche du pouvoir, quelque part déjà, de Louis XIII à l'époque. Sa mère, un mot rapidement, Georges Forestier, qui est la mère de Molière?
La mère de Molière, elle était fille, petite fille de tapissier, non pas valet de chambre, il y avait que le père de Molière qui avait acheté la charge, mais de riche tapissier. Son père avait acheté une maison de campagne à Saint-Ouen. On connaît, grâce à l'inventaire après décès du grand-père et de la mère de Molière qui meurt alors qu'il a 10 ans, la chambre qu'ils avaient au premier étage, richement meublée, avec... miroir de Venise, enfin en verre de Venise, enfin voilà, on s'aperçoit que vraiment ils vivent extrêmement confortablement et qu'ils ont déjà une conception d'aller prendre l'air le week-end, si je puis dire, à l'extérieur, ce que fera Molière quand il sera adulte avec Auteuil, il gardera la même habitude.
Sans vouloir critiquer ta mère, la pauvrette, elle a eu la vie plus facile que moi. Je songe à sa jolie chambre avec son lit couvert de serge de mouille vert brun, ses tapisseries de Rouen et ses deux chaises cactaires devant la cheminée.
Mais grand-mère Agnès, vous savez bien que cette chambre servait aussi de modèle pour les clients de mon père, qui prenaient l'assurance de son goût avant de lui confier leur ameublement.
Ah, je le reconnais, mais que de bijoux ton père a offert à sa jolie Marie. Des pendants d'oreilles, des ceintures en pièces d'or, des montres, des anneaux ornés de diamants, d'émeraudes, d'opales. Te souviens-tu de ces bracelets de perles? L'un d'eux ne comptait pas moins de 1054 perles.
Mais ne parlons plus de cela. La pauvrette a été choyée, mais là, ça n'est plus.
Ouais, j'attends que tu foudes, hein, gros lard!
Je me fais nourrir, moi! Je ne me fais pas foudre! Allez-y!
À quoi ressemble la vie de ce petit garçon dans les rues de Paris dans les années 1620-1630, Georges Forestier?
Alors, c'est difficile de savoir à quoi ça ressemble exactement. Ce qu'on peut dire, c'est que le quartier des Halles est extrêmement animé, qu'à l'endroit où il habite, place du, ce qu'on appelle du Trahoir, là, la place de l'Arbre Sec qui existe toujours actuellement, c'était un des principaux lieux patibulaires de Paris, c'est-à-dire qu'il y avait souvent des exécutions. Donc, une belle pendaison... beaucoup coupé si c'était un aristocrate, et ça, des fenêtres de la maison de Molière, on le voyait. Et il pouvait courir jusqu'à la Samaritaine, juste à côté, hein, à la grande fontaine de la Samaritaine. Pas loin, il y avait le théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, qui était au cœur des Halles. Pas loin, il y avait le Pont Neuf, où se produisaient les farceurs au coin de la place Dauphine et les bonimenteurs, etc. Donc, vraiment, il était au cœur de la vie de Paris.
Est-ce que là, Georges Forestier, dans ces quartiers que vous décrivez, dans ce pont neuf qu'il traverse peut-être pour aller au collège de Clermont, qui va devenir le lycée Louis-le-Grand, est-ce que c'est là, vous pensez, que peut naître la vocation du jeune Molière, du jeune Jean-Baptiste, pour le théâtre?
Ce qu'on sait, c'est que si probablement il est allé au collège de Clermont, donc rue Saint-Jacques, qui était le collège des Jésuites...
Omnipotas, Iustar Redet, Omnipotas, Iustar Redet, Deus Omnia Lance...
Dans la plupart des collèges, et assurément dans le collège des Jésuites, la classe de rhétorique, l'équivalent de notre classe de première, était entièrement consacrée au théâtre. C'est-à-dire qu'en fait, le régent, le professeur, écrivait une pièce de théâtre, souvent en latin, mais de plus en plus en français à mesure qu'on avance dans le siècle, et les élèves apprenaient la pièce et la jouaient au moment de la fin de l'année, lors de la grande cérémonie de remise des prix. Des fois, il y avait deux représentations, voilà. C'était même quelquefois une grande cérémonie pour tout Paris où on venait assister pour peu qu'il y ait quelqu'un de célèbre dans l'assemblée.
La radiodiffusion française présente Potaches et Labadins, ou La classe intemporelle. Aujourd'hui, Louis le Grand.
Monsieur le proviseur, pour évoquer le passé de l'établissement prestigieux que vous dirigez, nous pourrions, nous devrions peut-être même employer les grands moyens.
C'est-à-dire ?
Celui-ci, par exemple.
Autorisé par lettre patente du 13 février 1562, le collège de Clermont fut ouvert en 1563 par les jésuites dans un hôtel connu sous le nom de Cour de Langres, situé dans la rue Saint-Jacques à Paris. Le collège de Clermont fut, au XVIIe siècle, le plus célèbre du monde. Il était renommé pour l'excellence de ses études. En 1674, le roi Louis XIV, assistant à la distribution des prix du collège, lui donna son patronage. Et il fut décidé que la vieille inscription de la porte d'entrée, Collegium Claromontanum, serait remplacée par celle de Collegium Ludovici Magni. Le collège royal de Louis le Grand venait de naître.
Revenons deux secondes à son père, Georges Forestier. Mmh. Parmi les légendes qui courent sur la vie de Molière, il est décrit un père étriqué, bourgeois, assez austère, difficile, qui se serait opposé au choix de son fils. Or là encore, c'est a priori une légende.
Oui, c'est une légende en fait qui a été bizarrement entérinée et développée par Charles Perrault à la fin du siècle. Charles Perrault qui écrit deux volumes qui s'appellent Les hommes illustres qui ont paru durant ce siècle. Et dans le tome 1 qui paraît en 97, il y a évidemment deux pages, c'est toujours deux pages, sur Molière. Et il raconte qu'il avait tellement voulu faire du théâtre et que son père s'y était opposé, qu'il a envoyé son précepteur pour essayer de, le précepteur de Molière pour essayer de convaincre Molière de ne pas faire de théâtre et que du coup, c'est Molière qui l'a retourné et que le précepteur s'est mis à faire du théâtre. Tout ça, on voit pas quel précepteur est rentré dans la troupe. Je veux dire, on s'aperçoit que c'est un jeu, exactement le même jeu que celui que Grimaré va faire en disant le père de Molière était un rigoureux commerçant, c'est le grand-père débonnaire qui va... Alors qu'encore une fois, comme je vous l'ai dit, le grand-père débonnaire, en fait, il était un tapissier, commerçant comme le fils, comme le beau-frère, comme ils étaient tous. Donc, pourquoi plutôt l'un que l'autre? Et on s'aperçoit qu'en fait, le père, il va payer les dettes de son fils quand la première troupe, l'illustre théâtre, va faire faillite, qui va garantir tout ça. Et on n'a pas l'impression du tout qu'il ait été désespéré, peut-être, mais rien ne le dit dans les faits.
Mais que vais-je faire de toi? Mais que vais-je faire de vous? Plus je vous observe, et plus vous me causez du souci. Pour la dernière fois, Jean-Baptiste, que veux-tu? Mais répondons! Tu vois que je suis calme et prêt à t'écouter. Réponds-moi, Jean-Baptiste. Ta patience est à bout. Mais va-t-on m'obéir à la fin?
C'est très difficile de suivre Molière dans ces années-là. Bon, on sait qu'il a fait des études au collège de Clermont, donc le Louis le Grand actuel.
Jacqueline Razgonikoff est bibliothécaire de la Comédie-Française.
On sait qu'il a eu des licences de droit. Certains ont dit qu'il les avait prises à Orléans, mais on ne le sait pas non plus, on n'en est pas sûr. En fait, il les a probablement achetées et on pouvait aller à Orléans acheter des licences de droit. En même temps, on dit qu'il a peut-être exercé le métier d'avocat, mais on n'en a aucune trace,
et oui,
d'habitude. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il fréquentait un cercle de jeunes gens, je dirais libertins, mais libertins dans le bon sens du terme, comme on le disait au XVIIe siècle, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas des religieux, disons. Et ils s'intéressaient à la philosophie antique, puisqu'il a traduit une partie du De Natura Rerum de Lucrèce.
Mais c'est signé Molière? Qui est Molière? C'est moi.
Eh bien, feuilletons le grand livre d'histoire et d'image de Saint-Eustache. Un illustre personnage, Molière.
Du samedi 15 janvier 1622 fut baptisé Jean, fils de Jean Poquelin, marchand tapissier, et de Marie Creuset, sa femme, demeurant rue Saint-Honoré.
Alors sur le registre paroissial de l'église Saint-Eustache, il est baptisé, ce petit Poquelin, Jean Poquelin, comme son père. Il deviendra Jean-Baptiste plus tard, à la naissance de son frère cadet. On va lui adjoindre le Baptiste, Jean-Baptiste. Mais il est connu sous le nom de Molière, évidemment, Georges Forestier. Alors d'où vient ce pseudonyme de Molière ?
Il se trouve que quand on regarde les noms des autres comédiens, on s'aperçoit qu'ils prennent tous des noms de pseudo-fiefs de campagne. Le plus célèbre, qui s'appelle Guillaume des Gilbert, sieur de Mondory, rendu célèbre par Cyrano de Bergerac, Zacharie Jacob, sieur de Montfleury. Et puis après, si on continue, on s'aperçoit qu'il y a Floridor, il y a Haute-Roche, il y a Champmélé, il y a Larocque, il y a Rosimont, il y a etc. Ils ont tous, quasiment tous, des surnoms.
Ça veut dire que les comédiens singent par mimétisme la noblesse.
Oui,
hein, on s'attribue un faux fief.
Voilà, un faux fief dont tout le monde sait bien que c'est un faux fief puisque...
Ils sont comédiens.
Voilà. Et alors pourquoi Molière ? Parce que quand on regarde la carte des Molières de France aujourd'hui sur Internet, c'est-à-dire tous les lieux dits d'où l'on extrayait soit des pierres à moulin, donc Molière, hein, des pierres à moulin, soit des pierres Molière pour faire des maisons, hein, eh bien on s'aperçoit que la plupart du temps, aujourd'hui encore, il y a plein de lieux-dits qui s'appellent non pas Molière, mais Molière. Donc dans la région parisienne, où on construisait beaucoup avec des pierres Molière, eh bien il y avait beaucoup de lieux-dits qui s'appelaient Molière. Donc il suffit de faire un tour en dehors de Paris pour s'apercevoir de ça. Or, quand Molière crée sa première troupe avec ses amis du même quartier, la famille Béjart en particulier, on s'aperçoit qu'ils prennent tous des surnoms de campagne. Béjart, Joseph Béjart, l'aîné de la famille, il se fait surnommer le sieur de la Borderie. Alors pourquoi il ne le garde pas, lui ? Parce que sa sœur va devenir très célèbre, Madeleine Béjart, et que du coup, il préfère garder le nom de Béjart qui le rend célèbre à travers sa sœur. Mais sinon, tous les autres, ils prennent des noms de ce type-là.
Reprenons. Lorsque vous êtes dépourvu d'archives personnelles, il n'est pas aisé d'écrire la vie d'un individu. Alors, qu'ont fait certains biographes de Molière? Eh bien, ils sont allés sonder ses œuvres dans l'espoir d'y dénicher des traits de caractère ou des aspects de sa vie intime que le dramaturge aurait glissé au fil de ses pièces.
Jouons le jeu, une émission d'André Gillois.
Imaginons un instant que nous soyons un de ces biographes à la recherche d'informations intimes sur la personnalité de Molière. Et pour ça, nous aurions choisi un thème récurrent de ses pièces, la jalousie.
Il est vrai, quelque effort que je fasse, qu'un peu de jalousie en mon cœur trouve place.
Un peu de jalousie, dit-il, au premier acte. Mais plus tard...
C'est une trahison, c'est une perfidie qui ne saurait trouver de trop grand châtiment. Et je puis tout permettre à mon ressentiment. Non, non, n'espérez rien après d'un tel outrage. Je ne suis plus à moi, je suis tout à la rage. Trahi de tous côtés, mis dans un triste éclat. Qu'ici j'immole tout à ma fureur extrême. Et que mon désespoir achève par moi-même.
Il y a aussi Arnolphe de l'école des femmes.
Et je sens là-dedans qu'il faudra que je crève. Si de mon triste sort la disgrâce s'achève.
Le valet d'Arnolphe explique à Georgette ce qu'est cette jalousie.
Dis-moi, n'est-il pas vrai, quand tu tiens ton potage, que si quelque affamé venait pour en manger, tu serais en colère et voudrais le charger ?
Oui, je comprends cela.
C'est justement tout comme. La femme est, en effet, le potage de l'homme. Et quand un homme voit d'autres hommes, parfois qui veulent dans sa soupe aller tremper leurs doigts, il en montre aussitôt une colère extrême.
Jalousie, tu viens ramper autour de moi comme un serpent perfide et froid. Jalousie, tu arrives dans ta chaîne, mon cœur glacé d'effroi.
Ce vieux procédé d'aller chercher dans l'œuvre de l'auteur des traits de son caractère, Molière en est victime depuis 3 siècles.
Oui, Molière est victime, et aujourd'hui encore, et j'insiste vraiment sur ce point, y compris dans les manuels scolaires tels qu'ils continuent à s'éditer, de ce qu'on pourrait appeler un raccourci biographique. C'est-à-dire qu'il y a un effet de plaquage systématique entre les vicissitudes supposées de sa vie, qui pour la plupart sont complètement fantasmées, et les caractères de ses personnages. Et c'est évidemment faire abstraction du caractère extrêmement savant de cette littérature. Molière, dans ses premières pièces, est imprégné de culture latine, et imprégné également de comédies italiennes et espagnoles, et fait en fait ce qu'il appelle du raccommodage, de l'adaptation, on dirait en termes modernes, un arrangement. C'est un arrangeur, en fait, du théâtre humaniste disponible à son époque. Donc c'est un théâtre extrêmement savant. Ensuite, plus il avance dans son travail, plus il va venir à des thématiques qui sont celles de la littérature galante de l'époque, des bergers, des bergères, des amours pastorales, des choses comme ça, très abstraites et symboliques, qui viennent de toute une relecture de l'Antiquité. Et pourtant, régulièrement, on rend son œuvre coupable, ou en tout cas, on considère que son œuvre est un témoignage de sa vie. Quand il fait le Misanthrope, c'est parce qu'il est mélancolique, harassé par le travail, agacé par le monde et les infidélités de sa femme. Quand il fait l'Avare, c'est parce qu'il règle ses comptes avec son père, qu'il l'a déshérité au moment où il a choisi d'être comédien, ce qui est complètement faux. Il a continué à payer ses dettes, et notamment au moment de la faillite de son premier théâtre, en 1645, c'est son père qui va payer cash à la prison du Châtelet sa caution pour pouvoir le libérer. Donc il a au contraire accompagné, peut-être pas avec une extrême bonne volonté, peut-être qu'il aurait voulu un autre destin, mais en tout cas il n'a jamais désavoué son fils.
Au voleur ! Au voleur ! À l'assassin ! Au meurtrier ! Justice ! Juste ciel ! Je suis perdu ! Je suis assassiné ! On m'a coupé la gorge ! On m'a dérobé mon argent !
Donc la question du père abusif dans le théâtre de Molière n'a rien à voir avec la relation qu'il a pu avoir avec son père. C'est simplement qu'il a compris que une des structures les plus fondamentales du pouvoir de l'époque, c'est le père de famille, qui est lui-même le représentant de Dieu dans son foyer. Donc il a un pouvoir absolu sur sa femme et ses enfants, le roi étant lui-même un représentant de Dieu sur terre. Donc on a une sorte de trinité comme ça, où le roi est cautionné par Dieu et cautionne à son tour le pouvoir du père. Donc si on veut attaquer la structure patriarcale de la société d'Ancien Régime, on doit s'en prendre au père et montrer qu'ils ne sortiront pas victorieux de la rivalité ou du conflit générationnel, on pourrait dire, avec les jeunes. Tout le théâtre de Molière, c'est ça. Et il a rien inventé, puisque c'était déjà dans la Comédie latine. Quand il fait l'Avare, en fait, il reprend purement et simplement le canevas de Plaute, simplement, il va la mettre dans le contexte de l'époque, et ce qui a changé, c'est pas tellement la relation entre les parents et les enfants, c'est la relation à l'économie, à l'argent, c'est cette société capitaliste qui est en train de se mettre en place, et par rapport à laquelle son héros est complètement aveuglé.
Hélas, mon pauvre argent. Mon pauvre argent, mon cher ami. On m'a privé de toi, et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie, tout est fini pour moi. Et je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre. Sans les faits, je n'en puis plus. Je me meurs. Je suis mort. Je suis enterré.
Autre légende tenace qui colle à la peau de ce malheureux Molière.
Jean-Baptiste.
C'est son jeu d'acteur.
Je n'envisage tout de même pas de jouer une tragédie.
Mais regardez autour de vous. Ce sont les gens de la cour qui vont venir nous voir ici. Ce public-là mérite mieux qu'une grossière farce. Notre troupe mérite mieux qu'une farce. Je mérite mieux qu'une farce.
On le dit seulement comédien et non tragédien.
Mais Jean-Baptiste, tu ne sais pas jouer la tragédie.
On le dit surtout mauvais tragédien.
Tu bégayes.
Tu respires à contre-temps.
Tu es mauvais en tragédie.
Cet empire absolu sur la terre et sur l'onde.
Or là, à nouveau donc, c'est une légende.
Mais cette légende, en fait, elle apparaît à partir des années 60, quand Molière commence à affronter des oppositions, des ennemis. Ça commence dès Les Précieuses Ridicules, où on dit que ce n'est qu'un farceur. Et ça va le suivre tout le temps. Quand il va commencer à écrire des grandes pièces en cinq actes originales comme L'École des Femmes, puisque L'École des Femmes, c'est la première pièce, nouvelle manière de Molière en cinq actes, eh bien, on va le traiter de farceur. Et il se trouve qu'il invente un jeu qui est grimacier. Ça, c'est à partir de 1660, quand il invente le personnage de Sganarelle, quand pour la première fois, il enlève son masque de mascarille, petit masque, mascarille, c'est ça que ça veut dire. Et donc, ce personnage-là, qui est le valet à l'italienne, il joue masqué, avec le demi-masque, au nez pointu, etc. Et puis, en 1660, six mois après le triomphe des Précieuses Ridicules, petite comédie en un acte, il réécrit une petite comédie en un acte, qui s'appelle Sganarelle ou le cocu imaginaire. Et c'est là qu'il a l'idée géniale d'enlever le masque, de jouer un nouveau personnage qui est celui du bourgeois rétrograde, habillé à l'ancienne mode, qui prend tout le temps les apparences pour la vérité, qui est jaloux, soupçonneux, qui croit que la femme, toutes les femmes sont légères et qui veut qu'elles ont vocation à faire cocu les hommes. C'est-à-dire tout ce qui va devenir l'image du bourgeois rétrograde dans les pièces, différentes pièces de Molière. Eh bien, il le joue à visage découvert. C'est-à-dire qu'il se fait une moustache, une petite barbiche, etc., de gros sourcils. Bien sûr, mais il adopte un jeu qui est un jeu inouï pour les Français, qui est un mixte entre le jeu déclamé français et le jeu du plus célèbre acteur italien qui était un mime, qui s'appelle Scaramouche. Scaramouche, comme tout mime, il transmet les émotions à travers des mimiques, comme son nom l'indique, c'est-à-dire des grimaces en vérité. Et donc Molière a l'idée géniale d'accompagner le discours du personnage de grimaces qui témoignent de ses émotions, de son incapacité à parler, etc. etc. Et quand on va vouloir, au moment d'une petite guerre là, des théâtres, en 1663, juste après la création de l'École des femmes, quand on va vouloir attaquer Molière... qui s'est moqué de ses rivaux, des acteurs rivaux de l'Hôtel de Bourgogne. Quand on va vouloir lui renvoyer sa pièce, eh bien, on va dire que Molière, il est incapable de jouer la tragédie, qu'il fait des petits cris, etc., il a un hoquet qui... En vérité, Molière, ça faisait 2 ans qu'il jouait plus de tragédie à ce moment-là. Et quand est-ce qu'il faisait des hoquets, des petits cris? Quand il faisait la comédie. Quand, vous savez, la fameuse scène de l'École des femmes, qui est la scène du « le », au moment où... Arnolphe demande à Agnès, mais ne vous a-t-il donc point pris autre chose ?
Ne vous a-t-il point pris, Agnès, quelque autre chose ? Ouf.
Et il m'a...
Quoi ?
Pris.
Hmm ?
Le...
Plaît-il ?
Je n'ose, et vous vous fâcherez peut-être contre moi.
Non.
Si fait.
Mon Dieu, non.
Jurez donc votre foi.
Ma foi, soit.
Il m'a pris... Vous serez en colère.
Non !
Si !
Non, 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 non ! Diantre, que de mystère ! Qu'est-ce qu'il vous a pris ?
Il...
Je souffre en damnée.
Il m'a pris le ruban que vous m'aviez donné. À vous dire le vrai, je n'ai pu m'en défendre.
Passe pour le ruban.
Et du coup, on s'est amusé pour le rabaisser, mais c'était dans une polémique très circonscrite, on s'est amusé pour le rabaisser à dire qu'il avait un sort de hoquet qui faisait que, voilà, il jouait la tragédie comme ça. Alors que, évidemment, pas du tout, du tout, du tout. Mais ça va lui rester pour quelle raison ? Parce qu'à partir du moment où on va commencer à écrire des biographies plus sérieuses, fin 18e, 19e, on va redécouvrir ces petits textes de polémique de 1663 et on va se servir de ça pour dire « Ah, Molière, génial acteur comique, mais pas bon acteur tragique. »
Récapitulons. Alors, pas de manuscrit, pas de lettres, aucun écrit. De plus, aucun récit de témoin oculaire rapportant avoir vu travailler Molière, ni compter où, comment et comment il écrivait. J'estime donc que je peux poser la question, Molière était-il Molière ?
Me voyons, votre déduction, veuillez m'en excuser, est stupide.
Sans doute, mais prouvez-le-moi.
Et vous, donnez-moi des preuves pour étayer ce doute que vous exprimez.
Ça, j'en suis incapable. Je sais seulement que Pierre Louis, dans Comédia, prétendit autrefois en 2 articles que Molière était le prête-nom de...
De qui, je vous prie ?
De Corneille.
La deuxième rumeur, celle selon laquelle Corneille écrit les pièces de Molière, elle date d'il y a exactement 1 siècle. Hein. C'est une pure invention au sens où c'est le poète Pierre Louis qui a lui-même, grand pasticheur, lui-même qui écrivait sous des pseudonymes, lui-même qui était totalement obsédé par l'idée d'écrire sous des noms d'emprunt, qui était obsédé par Ronsard, plus grand poète français, Corneille, plus grand poète français, et Hugo, plus grand poète français. Il s'est dit... Quand il est tombé sur une pièce de Molière qui est Amphitryon, qui est en vers alternés, en vers mêlés, comme on disait, alternance de vers de 12, de 10, de 8, de 7, de 6, même syllabes, il s'est dit, Corneille a écrit des vers comme ça, c'est pas possible, c'est Corneille qui a écrit ça. Et il a fabriqué à partir de là sa théorie, vous savez...
1919, je crois, ça date.
1919, mm-hmm. C'est ça. Mais avant, jamais personne n'avait émis le moindre. En revanche, ce qu'on reprochait à Molière de son vivant, de son temps, c'est de prendre son bien où il le trouvait. Je veux dire, par exemple, l'École des femmes, il se sert d'un schéma d'une pièce espagnole qui est l'histoire de la précaution inutile, le type qui épouse une sotte pour etc. Et il se sert d'un schéma d'une comédie italienne dans lequel le type, il vient raconter au mari de celle avec laquelle il est en train de coucher sans savoir que c'est le mari. Tout ça, voilà. Et il a combiné ça entre les deux. Évidemment, ses adversaires ont dit, voilà, il ne s'est pas inventé lui-même, alors qu'au contraire, le génie de l'invention, C'est de combiner deux choses totalement diverses et de créer une œuvre totalement originale.
D'autres prétendent que le nom de Molière recouvre celui de Louis XIV.
Oh, ciel ! Comme on aurait dit alors, ciel, quelle étrange idée !
Idée selon laquelle, en effet, Louis XIV lui-même aurait été l'auteur caché des pièces de Molière. Mais d'où sort cette théorie farfelue ?
Donc il y a un prêtre belge notamment, qui est un scientifique en plus de haut vol, astronome très, très important, qui a essayé de démontrer qu'en fait sous l'œuvre de Molière se cachait Louis XIV lui-même, qui faisait passer les messages à la société de son temps, qui d'une certaine façon remettait la cour à sa place par son auteur fétiche interposé. Donc voilà. Il y a une sorte de circulation comme ça qui est évidemment d'autant plus efficace qu'elle s'appuie sur des faits objectifs, à savoir l'absence de manuscrits et l'absence d'œuvres complètes à la mort de l'auteur.
Mais ce que ça raconte quand même Martial Poisson, c'est qu'évidemment c'est une légende, Molière a écrit ses œuvres. Ce que ça raconte peut-être, c'est que jusqu'à aujourd'hui, on a du mal à concevoir que l'acteur comique, le farceur, le grimacier soit capable lui-même d'écrire des œuvres d'une grande puissance, non ?
Oui, et ça c'est tout le paradoxe, c'est que ce qui fait la puissance dramatique de l'œuvre de Molière, comme de Shakespeare d'ailleurs, hein, les deux auteurs les plus connus dans le monde sont comme par hasard écrivains et comédiens et chefs de troupe en fait. Hein, et le fait qu'ils tiennent ensemble cette fonction de directeur artistique, metteur en scène, même si le terme est anachronique, hein, c'est lui qui met en œuvre sur scène son travail, de directeur de comédien. On sait qu'il écrivait les personnages en fonction des comédiens dont il disposait, à travers un système à l'époque qui s'appelait le système des emplois. Donc chaque comédien jouait toujours dans la troupe le même type de personnage, le premier amoureux, le barbon, le père de famille, la jeune coquette, etc. Hein, donc il écrivait comme ça pour une personne en particulier, ce qui donnait la grande puissance et l'incarnation de ce travail. Bon, pour moi, il est le premier écrivain de plateau, d'une certaine façon. Hein. Il écrit à partir de l'expérience du plateau. Et ce, d'autant plus qu'à l'époque, l'édition de théâtre, généralement, est postérieure à la représentation. Ce qui s'est un peu inversé aujourd'hui. Hein, aujourd'hui, si on veut qu'une pièce soit adaptée, on a intérêt plutôt à la publier avant. À l'époque, c'est le contraire. Une pièce qui marche sera publiée, une pièce qui ne marche pas sera oubliée, restera à l'état de manuscrit. Hein, donc cette capacité de correction, de révision, de réinvention fait une des caractéristiques essentielles de l'œuvre de Molière. Et en même temps explique le malentendu finalement tenace qui s'exerce à l'encontre de son statut d'auteur.
Oh, mon Dieu, quel homme doit souffrir avant de mourir ? Rideau !
3 et 2 font 5 et 5 font 10.
Alors parmi les plus grandes légendes, celle qui revient très fréquemment et qui est véhiculée encore aujourd'hui par une culture populaire, Molière serait donc mort sur scène en interprétant le malade imaginaire. Oui. Alors que s'est-il précisément passé, Georges Forestier, ce 17 février 1673 ?
On a la chance d'avoir un témoignage très précis, qui est celui d'Armand de Béjart.
À Monseigneur l'illustrissime et révérentissime archevêque de Paris. Supplie humblement Élisabeth Claire Armande Gressin de Béjart, veuve de Jean-Baptiste Poquelin de Molière, vivant valet de chambre et tapissier du roi et l'un des comédiens de sa troupe, disant que vendredi dernier, 17e du présent mois de février 1673, sur les 9h du soir, le dit feu sûr de Molière s'étant trouvé malade de la maladie dont il décéda environ une heure après. Il voulut dans le moment mourir en bon chrétien. À l'effet de quoi il demanda un prêtre pour recevoir les sacrements, et envoya plusieurs fois son valet et sa servante à Saint-Eustache, sa paroisse, lesquels s'adressèrent à messieurs l'Enfant et le Chaud, deux prêtres de la dite paroisse, qui refusèrent de venir.
Deux prêtres de l'église Saint-Eustache ont refusé de se déplacer lorsqu'on est venu les chercher pour Molière. Donc, pour pouvoir enterrer un comédien en terre d'église, avec les sacrements, il fallait absolument qu'il abjure le métier de comédien, c'est-à-dire qu'il jure qu'il plus jamais il ne serait comédien. Et à ce moment-là, il recevait l'extrême onction. Mais Molière étant mort sans que le prêtre qui a finalement arrivé ait pu recueillir quoi que ce soit, le curé de Saint-Eustache, très logiquement, le lendemain, a refusé la sépulture. Donc qu'est-ce qu'a fait Armand de Béjart ? Elle a fait une supplique à l'archevêque de Paris, dans laquelle elle a raconté exactement tout ce qui s'est passé la veille. Et on sait que c'est vrai parce que l'archevêque de Paris a donné l'autorisation de l'enterrer le surlendemain après avoir fait faire une enquête par le vicaire général de l'archevêché, qui a corroboré tout ce qu'a dit Herman Béja. Et c'est comme ça qu'il a été enterré de nuit. Pourquoi de nuit ? On en a fait évidemment une grande légende, là aussi, mystère de nuit. Tout simplement parce que l'une des plus grandes célébrités de l'époque est morte sans avoir reçu l'extrême onction et sans avoir abjuré les médecins de Coignet. Si on l'enterre comme ses confrères comédiens, alors même qu'il n'a pas eu les sacrements, c'est un scandale. Donc, sans scandale, le soir, de nuit. Cela dit, il a été suivi, son cercueil, par 800 personnes avec des flambeaux, et ça a dû être absolument magnifique et très émouvant, mais voilà. Alors, donc, grâce à Armand Béjart, on sait ce qui s'est passé.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé ?
Eh bien, il s'est passé que Molière, quand il est rentré chez lui, et il faut savoir que là, au XVIIe siècle, on jouait l'après-midi, et non pas le soir. C'est ça aussi qui va entraîner, à partir du XIXe siècle, la légende. On jouait l'après-midi, on commençait à jouer théoriquement à 2h, on attendait que la salle se remplisse, souvent à 2h30, 3h, mais il fallait que ce soit fini avant la nuit, parce que sinon les rues de Paris, c'est un coupe-gorge, hein, la nuit, donc il faut rentrer avant la nuit. Et donc Molière a dû finir la pièce, on est en février, au plus tard à 6h, 6h30, c'est déjà la nuit tombée.
J'ai froid, je vais rentrer chez moi. Un médecin, vite, il faut un médecin.
Et il est rentré chez lui. Et il a commencé à être... à avoir cette toux, c'est-à-dire il avait une infection pulmonaire, on a des témoignages comme quoi à Paris au mois de janvier-février il a eu un hiver épouvantable, il y a eu des centaines de Parisiens qui sont morts d'infection pulmonaire. Molière a fait partie de cela et en toussant il a eu une hémoptysie, c'est-à-dire ses poumons se sont remplis de sang et finalement
il s'est étouffé,
ça
en fait.
Étouffé dans son sang, mais il est mort entre 9h et 10h du soir.
Chez lui. Pas sur scène donc.
Mais non, mais non, ça faisait 3 ou 4 heures qu'il avait quitté la scène.
Et c'est ainsi que le 20 février 1673, à 9h du soir, une grande foule se presse dans la rue Richelieu. Armand vient d'ouvrir les fenêtres qui donnent sur la rue, et la forêt et Provençal ont jeté 1200 livres en petite monnaie de 5 sols, 1200 livres pour les pauvres. On s'est battu devant le porche, et Armand elle-même s'est mise à la fenêtre pour ramener le calme.
Écoutez-moi tous. Si vous êtes venus, c'est que vous aimiez mon mari autant qu'il vous aimait. Donnez-lui une dernière preuve de votre affection. Lui qui vous a fait rire si souvent a besoin ce soir de votre silence. Si vous voulez l'accompagner jusqu'au cimetière, faites-le en silence. Pour que les quelques ennemis qu'il a encore ne puissent rien lui reprocher. Voici de l'argent pour vous remercier de prier pour son âme. Nous pouvons partir.
Puis les prêtres viennent charger sur leurs épaules le cercueil recouvert du poêle des tapissiers, le premier métier de Molière. 6 enfants vêtus de bleu portent des cierges allumés dans des chandeliers d'argent et se placent de chaque côté du cercueil, entourent également des laquais, porteurs eux aussi de flambeaux. 3 ecclésiastiques ont pris la tête du cortège qui maintenant s'ébranle doucement vers le cimetière Saint-Joseph. Une fosse a été creusée au pied de la Grande Croix. Les hommes soulèvent le cercueil. Ils le font glisser jusqu'au fond. Le bruit mat du bois qui heurte la terre. Le fer d'une pioche qui résonne. Voici maintenant, jetés par les fossoyeurs, les premières pelletées de terre. Les têtes s'inclinent. Les larmes coulent. C'est fini.
Cimetière Saint-Joseph, annexe de la paroisse Saint-Eustache. Molière y a une tombe élevée d'un pied hors de terre.
Mais alors aujourd'hui, la tombe officielle de Molière se trouve au Père-Lachaise, oui, à Paris, mais qui se trouve dans le caveau de cette tombe, Georges Forestier ?
Eh ben, on n'en sait rien parce qu'on ne sait pas si, quand à la Révolution française, ils ont exhumé les ossements et que le cimetière a été d'ailleurs détruit, fermé, on a construit des immeubles dessus, eh bien, ce sont bien s'ils ont bien retrouvé la tombe de Molière et ce sont bien les ossements de Molière qui ont été transportés. On est d'autant plus dubitatif qu'à côté du caveau de Molière au Père-Lachaise, il y a le caveau de La Fontaine, dont les ossements ont été ramassés au même endroit à côté. Or, on sait que La Fontaine, il a été enterré au cimetière des Innocents. Et donc, celui qui est dans le caveau de La Fontaine, au Père-Lachaise, ce n'est absolument pas La Fontaine. Donc, Molière, c'est douteux. D'où le fait que transporter ses cendres au Panthéon, bon, on peut faire un transport symbolique.
Symbolique. Voilà. Symbolique.
Rive droite, au rez-de-chaussée de la Comédie Française, ouvrant sur cette cour du Palais Royal que Louis XVIII enviait à son cousin d'Orléans, entrons, si vous le voulez bien, à la bibliothèque de la Comédie Française.
Un autre document extrêmement rare.
Écoutons Monsieur Neveu de Gas, le secrétaire général de la Comédie Française, qui nous sert ici de guide et de guide érudit.
C'est l'épitaphe de Molière par La Fontaine. Nous en possédons l'autographe. Sous ce tombeau gisent Plaut et Terence, et cependant le seul Molière y gît. Leurs trois talents ne formaient qu'un esprit dont le bel art réjouissait la France. Ils sont partis, et j'ai peu d'espérance de les revoir, malgré tous nos efforts pour un long temps. Selon toute apparence, Terence et Plaut et Molière sont morts.
Alors cette vie de Molière, elle est à la fois étincelante, mais aussi pleine d'ombre. Est-ce que vous diriez que c'est un illustre méconnu, Molière ?
Ah bien sûr, tant qu'on ne peut pas savoir ce qu'il avait réellement dans le cœur et les reins, comme on dit, c'est un illustre méconnu. On est obligé de faire des hypothèses grâce au fait qu'on sait comment on écrivait une pièce de théâtre au XVIIe siècle, qu'on connaît les modèles dont Molière justement s'est servi en empruntant à droite à gauche, on arrive à voir comment il fabrique ses pièces. Donc on peut recréer une sorte de travail intellectuel. Mais le travail intellectuel, c'est qu'une partie de la vie intellectuelle de quelqu'un et de la vie intime de quelqu'un. Donc il y a tout cet aspect-là qui est effectivement méconnu.
À ces mythes et à ces légendes se sont agrégés d'autres mythes, d'autres légendes. Et la première, c'est cette plaque qu'on trouve à la Comédie Française, où il y a marqué premier doyen de la troupe, Molière. Problème, Georges Forestier.
Oui, parce que la troupe de la Comédie Française a été créée en 1680, 7 ans après la mort de Molière. Mais d'emblée, elle s'est construite, si je puis dire, en référence à Molière. Tout de suite, le principal répertoire de la troupe, ça a été les pièces de Molière et les pièces de Racine. Mais comme Molière avait été comédien et qu'une partie de la troupe provenait de l'ancienne troupe de Molière, eh bien, c'est comme ça qu'ils ont considéré que c'était le père tutélaire de la troupe et du coup, premier doyen.
En conclusion de ce premier épisode, on peut dire que Molière fut longtemps dérobé à lui-même. La connaissance que nous avons de sa vie repose souvent sur des approximations, voire des erreurs, parfois grossières. Cette absence de manuscrits, de lettres et d'écrits intimes continue de travailler les imaginaires aujourd'hui et à féconder toutes sortes de fausses attributions à ces fantaisistes. C'est le destin de Molière. Il fut si célèbre en son temps qu'il a sans doute eu conscience qu'il passerait à la postérité et il est certain qu'il rirait beaucoup de toutes ces légendes qui l'entourent. Une chose est sûre, dans ce siècle où le théâtre a conquis sa noblesse au cœur du royaume de France, Molière fut un directeur de troupe hors pair, un chef de meute audacieux et un entrepreneur extrêmement rusé. C'est l'horizon du prochain épisode.
La semaine prochaine, Molière, chef de troupe.
Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Toute notre équipe vous remercie pour votre attention. Bon après-midi.
Molière, le chien et le loup. Un récit de Philippe Collin, réalisé par Violaine Ballet. Assistance éditoriale, Estelle Gap. Documentation sonore, Clary Monac. Mixage, Julien Michel. Prochain épisode, L'Esprit de troupe. Molière, le chien et le loup est un podcast original de France Inter avec la Comédie Française.